Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Les Témoins de l'Invisible, émission de Radio Rancière entièrement consacrée à cette épineuse question des ovnis, les objets volants non identifiés. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir, alors via le téléphone, Franck Morin. Alors Franck Morin est né en 1970, il est diplômé d'école de commerce et de gestion à l'INSEC de Bordeaux, d'un master 2 marketing à l'université de Toulouse. Mais si je le reçois aujourd'hui dans l'émission Les Témoins de l'Invisible, c'est parce qu'il se passionne depuis déjà de nombreuses années pour l'énigme des ovnis. Franck Morin a publié plusieurs livres, dont Énigme spatiale et les mystères du phénomène ovni. Par ailleurs, il coordonne un collectif d'ufologues très étoffé, le CIPO, qui s'est donné, entre autres, la tâche d'attirer l'attention des grands médias, des scientifiques et du monde politique sur le phénomène des ovnis. Franck Morin, merci de m'avoir accordé cet entretien radiophonique. En préambule, je voudrais juste évoquer avec vous l'actualité, parce que le 17 mai dernier, la question des ovnis s'est invitée au Congrès des États-Unis, une audience publique qu'il était d'ailleurs possible de suivre en direct dans le monde entier. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Eh bien, je trouve que c'était une initiative intéressante et qui est dans le fil des événements qui se sont produits depuis 2017. Mais tout d'abord, effectivement, pour parler de l'actualité la plus récente, le principe est que le Congrès américain a réuni donc des personnes qui sont en charge d'un programme d'études des ovnis au Pentagone, et notamment Ronald Moultrie, patron du renseignement, et Scott Bray, qui est directeur adjoint du renseignement naval. Et c'est un événement assez notable, puisque depuis le rapport Blue Book, qui date de 1969, il n'y avait plus une seule audience publique sur ce thème. C'était la dernière fois que l'armée s'expliquait, en tout cas, et officiellement dessus. Et donc, là, les personnages en question ont été reçus, on leur a posé des questions sur leur travail, et il y a différents axes qui sont ressortis. D'abord, ils ont confirmé, effectivement, que l'armée considérait qu'il y avait un nombre important de cas inexpliqués, parce que dans le pré-rapport du Pentagone en 2021, on comptait 143 cas inexpliqués, et là, ils en annoncent 400. Autre point important, c'est que ces cas sont considérés comme une potentielle menace parce que il est question d'incursions sur des zones d'entraînement, des zones militaires, et même s'ils n'ont pas trop précisé, on a d'autres sources qui nous disent qu'il y a une résurgence des incursions sur les zones nucléaires. Ça, ce sont les premiers points. Donc, en résumé, ils valident la réalité du phénomène OVNI en précisant qu'une partie d'entre eux présente des caractéristiques de vol inexplicables. Et un autre aspect est la déstigmatisation. Ils ont beaucoup insisté sur ce point-là, en disant qu'ils souhaitent qu'on arrête de stigmatiser les témoins, notamment les pilotes. Et effectivement, ça a l'air de marcher, ils ont dit eux-mêmes qu'il y avait des pilotes qu'ils avaient contactés directement. On note aussi qu'il y a 11 cas de quasi-collision qui ont été cités. Alors là, on peut s'interroger sur ce terme, parce qu'une quasi-collision, c'est des engins qui, au dernier moment, évitent des avions de chasse. Donc, il faut qu'ils maîtrisent parfaitement leur vol pour faire ça. Mais d'autres sources, comme Richard Haynes, nous disaient qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Effectivement, il avait rassemblé des dizaines et des dizaines. C'est un classique du phénomène OVNI. Alors, bien sûr, tout le monde attendait de savoir s'agit-il d'une intelligence extraterrestre. Ils ont dit ni oui ni non, comme dans leur précédent rapport. Donc ça pourrait être décevant de ce côté-là, mais en fin de compte, on note qu'il y a il y a d'autres points qui sont positifs, qui est que maintenant, le le Congrès a précisé qu'il voulait avoir des avancées sur ce domaine, il voulait suivre ce dossier, donc il est possible qu'il y ait d'autres réunions publiques, que c'est pris en sérieux, et surtout parce que c'est une potentielle menace, et que donc ces recherches vont être suivies de près, et qu'en résumé, il s'agit vraiment d'une reconnaissance, une fois de plus, d'une inexplicabilité du phénomène OVNI.
Affaire à suivre donc. Alors, je voudrais qu'on revienne au tout début de votre intérêt pour la problématique des ovnis. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ben vous êtes intéressé à cette question?
La première fois que j'en entends parler, j'étais en adolescence et dans une bibliothèque que j'avais trouvé un livre qui parlait de rencontres de pilotes avec ce qu'on appelle des disques volants ou des soucoupes volantes. Et même si à cet âge-là, j'avais pas beaucoup de notions d'aéronautique, je me souviens que j'étais assez surpris de voir des formes peu conventionnelles comme le disque volant, qui a rien à voir avec les handicaps connus, et surtout que ce soit des gens expérimentés dans l'aérospatial qui en parlent. Et puis après, au fil des, j'en ai resté là. Puis au fil des années, je m'y suis plus intéressé. Quand j'ai entendu parler du cas de Phoenix, ça a ravivé mon attention. Et ça fait une dizaine d'années que j'intensifie mes recherches sur le sujet, par curiosité, par l'ampleur de cette énigme, parce qu'elle a des enjeux importants. S'il s'agit vraiment de notre intelligence, ça pourrait bouleverser la face du monde. Et puis, qui est surtout très documentée. C'est une énigme qui repose pas sur quelques témoins à droite à gauche, des histoires de croyances ou autres. On voit que dans certaines grandes vagues d'OVNI, bon, qui est plutôt ma spécialité d'étude, bien, on a plusieurs centaines voire milliers de témoins civils dans certains cas, des professionnels de l'aérospatial, des pilotes, des scientifiques, des ingénieurs, des notables. Et surtout le fait que ces observations ne se résument pas à des témoignages. Parfois, c'est corroboré par des visuels, des photos, des vidéos, des enregistrements radar. Et ce que nous a dit l'US Navy depuis quelques années, c'est qu'il n'y a pas uniquement que les enregistrements radar. Dans certains cas, comme celui de l'USS Nimitz en 2004, on a le radar, les infrarouges et d'autres capteurs. Et le pré-rapport du Pentagone en 2021 confirmait aussi ce point. C'est-à-dire qu'on a aussi de l'électro-optique qui se cumule à ces enregistrements. Ils ont conclu qu'en fin de compte, on est face à un phénomène qui est physique et matériel.
Alors, ce qui est
Donc c'est tous
intéressant,
ces éléments.
pardon, excusez-moi, allez-y, poursuivez.
Voilà, donc c'est tous ces éléments qui sont factuels et récurrents depuis des dizaines d'années. Qui m'ont convaincu qu'il y avait vraiment une solide réalité derrière cette énigme, et donc c'est cet intérêt qui me motive à l'étudier.
Oui. Alors, je trouve que ce qui est très surprenant, c'est quand on commence à s'intéresser un tant soit peu sérieusement à cette problématique, on est tout de suite frappé par l'extraordinaire étrangeté, l'apparent exotisme des apparitions d'OVNI. Et puis, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, la documentation impressionnante au sujet des OVNI qui a été réunie aux quatre coins du monde. Et néanmoins, eh bien, les médias mainstream ont toujours l'air de tomber des nues quand on parle des ovnis. On a l'impression que nous n'avons pas encore réussi à créer une culture finalement ovni et qu'ils ne font toujours pas partie de notre conception finalement commune de la réalité. C'est assez curieux, non?
Oui, c'est curieux et je dirais qu'il y a plusieurs formes de réticence. Déjà, on sent dès le début des grandes vagues OVNI en 1947 que, en tout cas au début aux États-Unis, les autorités militaires ont rechigné à parler de ce sujet. C'est-à-dire dès qu'on a eu le témoignage de Kenneth Arnold et beaucoup d'autres qui ont suivi, parce qu'il faut savoir qu'à cette période-là, dans le rapport de Ted Butcher qui s'appelle Report on the UFO Wave en 1947, on récolte 850 cas d'OVNI répertoriés pour l'été 1947. Et au départ, il y a eu une période intéressante, c'est que j'ai vu dans les articles de journaux que j'ai pu consulter que les médias prenaient ça au sérieux les 15 premiers jours. Et puis, à partir du moment où les autorités officielles ont considéré un déni en disant que ces observations de disques volants et de sphères volantes aux États-Unis été un phénomène météorologique ou psychologique, tout de suite, les médias s'en sont détachés, ont commencé à ne plus le traiter avec sérieux, à même alimenter certains canulars. Et puis peu à peu, on a vu que les comités scientifiques, échaudés par le risque qu'elles prenaient si elles intervenaient publiquement dessus, s'en sont écartés. Même si en secret elles l'étudient, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas apparaître dans les médias. Donc c'est un peu les trois gros blocages, les organismes officiels, les médias mainstream et les comités scientifiques qui freinent un peu l'étude sérieuse du sujet.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas aéronautiques parmi les plus probants? Je crois que c'est une de vos spécialités, les cas aéronautiques.
Oui, ben j'ai. Alors je pourrais commencer dans cette année 1947 où vous avez eu le capitaine, Kenneth Arnold, le 24 juin, qui observait 9 objets volants, dont un en forme de croissant et 9 en forme de disque avec une pointe à l'extrémité, pour dire qu'il n'était pas le seul. Il y avait aussi le capitaine Emil J. Smith, qui avec son copilote et une hôtesse de l'air a dit avoir vu deux groupes de disques volants évoluer à des vitesses extraordinaires, ce qui était déjà une caractéristique à cette époque-là incompréhensible. On a aussi eu d'autres pilotes comme Augustine Fernandez ou Richard Rankin ou Bob Savage, un peu moins connus, qui ont fait état de ces disques volants. Et déjà, il faut préciser que cette forme, on n'a jamais réussi à bien la faire voler correctement. Parce qu'à l'époque, en 1959-61, le projet Hove Record a réussi à faire voler un disque volant à 60 km par heure, alors qu'à l'époque, ces objets inconnus volaient entre 1000 et 4000 km par heure à peu près. Donc déjà, il y a toute cette vague de rapports de pilotes dès le début de l'année 47, et il y en a eu 45 répertoriés dans le rapport de Dominique Weinstein rien que pour cette année. Et après, dans les années 50, on a commencé à en voir aussi en Europe. Le premier en France a été celui du colonel Galibert en juin 1951, qui avec d'autres pilotes a poursuivi un disque volant qui a accéléré fortement et qui était de couleur métallique. Et pour revenir à des cas les plus récents, je dirais en 2019, comme on parlait d'incursions sur des sites ou des installations sensibles, il y a eu une vague d'objets inconnus, de drones entre guillemets non identifiés, qui ont pris en chasse les navires de l'US Navy. Et là, des articles de journaux médias mainstream comme Forbes, comme Popular Mechanics, le Washington Post, le New York Times ont fait allusion à ça et avec des sources. C'est-à-dire que, par exemple, des navires comme l'USS Peralta, John Finn et bien d'autres ont été accompagnés par des objets non identifiés qui les suivaient pendant parfois une heure et demie, décrits parfois comme de forme circulaire, capables de disparaître sous l'eau, a priori, et parfois se livrant à des provocations comme étant capables de survoler carrément le pont d'envol de ces navires. C'est des dossiers qui sont toujours inexpliqués parce qu'il en était fait allusion à l'audience du Congrès et ça se produisait à 100 miles à peu près des côtes américaines. Et on se demande si c'était des engins russes ou chinois. D'abord, qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Ça aurait été un peu osé, surtout de poursuivre le fleuron de la navire américaine qui est dotée des engins de détection et de contre-drones les plus avancés au monde. Et les survoler en toute impunité. On n'a pas non plus d'indices nous révélant que ça pouvait provenir de porte-cargo chinois ou russe dans le secteur, quoi. Il n'y en avait pas.
Il suffit peut-être de
Donc.
dire que ces engins aussi ont des capacités et des caractéristiques de vol qui nous sont pratiquement impossibles. Je veux dire, des engins qui peuvent comme ça partir comme des balles de fusil, qui peuvent aller sous l'eau, qui peuvent tout de suite changer très rapidement de direction. Ça a toujours été, d'ailleurs, depuis l'apparition des ovnis en 1947, l'apparition moderne, hein, des ovnis en 1947, Ça a toujours été des caractéristiques de vol très particulières, hein.
Oui, et en fin de compte, c'est là qu'est la clé du phénomène OVNI. Si on veut commencer à se baser sur des éléments factuels hein, pour faire les hypothèses, j'avais listé à un moment plus d'une vingtaine de caractéristiques de ces ovnis qui ne correspondent pas à celles usitées dans l'aéronautique officielle. Rien que leur forme pose problème. Dans la vague de 47, on avait majoritairement des disques volants, mais aussi des sphères volantes. Des sphères volantes parfois inférieures à 1 mètre. Et même de nos jours, on n'a aucune technologie qui permette de faire voler des sphères compactes et argentées, telles qu'elles étaient décrites à l'époque. On peut juste faire voler, il y a des drones à hélice qui ont une armature sphérique, mais ça dépasse pas les vitesses d'une voiture. La forme de la soucoupe, comme on parlait, pose problème parce que c'est très instable. Alors il y a bien des entreprises comme Möller International qui ont réussi à faire voler des disques volants avec des hélices, mais ça va pas à plus de 200 km par heure, c'est pas capable de poursuivre un avion de chasse. Donc il y a la forme, on a les vitesses qui atteignent parfois des vitesses délirantes dans l'atmosphère et battent le record du monde qui est fixé pour un avion à 7 200 km par heure environ. On a dès la vague de 47 des inversions de trajectoire. Un disque volant qui va dans une direction, puis tout d'un coup, il part en marche arrière, sans arrêt notable. Des virages à angle droit, on a des changements de forme. Par exemple, je cite le cas du pilote, le capitaine Howard, qui en 1954 a dit avoir été suivi par un objet volant énorme qui a changé au moins 6 fois de forme, et autour duquel il y avait des petits objets. En 1957, un pilote qui est devenu chef d'état-major de l'armée portugaise parle d'une rencontre où il y avait un objet qui a changé plusieurs formes et ensuite des petits objets ont foncé sur son escadrille et ont fait une quasi-collision. Donc ça existait déjà dans les années 50. Et on a bien sûr d'autres caractéristiques tout aussi impressionnantes comme le fait de passer le mur du son sans émettre de bang. Ensuite, il y a les accélérations phénoménales. On a parfois des objets qui sont en vol stationnaire. Or, dans l'aéronautique, on a très peu d'objets qui sont capables de faire ça. Les hélicoptères, bien sûr, mais il n'y en a aucun qui peut dépasser Mach 1, sinon les pales n'y résisteraient pas. On a bien, depuis les années 60, des avions ADAV qui peuvent faire du vol stationnaire, mais c'est très bruyant, il y a des panaches de fumée, et après, ils ne peuvent pas accélérer subitement. Et ça, c'est des caractéristiques qui sont récurrentes depuis des années. Et ça a été affiné récemment en disant que ces accélérations fulgurantes, par exemple dans l'objet Tic Tac qui a été vu en 2004 à proximité du groupe aérolinéaire Nimitz, si on voulait faire une accélération comme il l'a fait de 0 à 39 000 km par heure, il faudrait plus de la capacité énergétique produite par l'industrie nucléaire française. Donc voilà, c'est tous ces cumuls de caractéristiques, et encore je ne cite pas toutes ici, qui font douter de l'origine classique et terrienne de ces objets et phénomènes, quoi.
Oui. Alors, il y a une caractéristique du phénomène, c'est que souvent, et je crois donc que vous nous l'avez dit tout à l'heure, que c'est une de vos spécialités, le phénomène se produit, se manifeste par vagues successives. C'est-à-dire que sur un an parfois, ou alors sur quelques jours, ou parfois sur un jour comme le 5 novembre 1990, on va voir déferler des objets volants sur une zone géographique donnée, la vague belge également en 1990, et puis subitement disparaître, et puis on n'entend plus parler de vagues pendant 10-15 ans. C'est très étrange, non?
Ah oui, et comme vous le disiez, effectivement, il y a une très forte variabilité de la durée. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le 5 novembre 1990, vous avez eu une rentrée atmosphérique de fusée Proton russe qui s'est désagrégée dans l'atmosphère vers 19h, 19h01, 19h02 en France. Et avant ou après cet événement, on a eu effectivement des observations de ce qui ressemblait à des aéronefs géants de toutes formes. et parfois avec un décalage et parfois avec un décalage horaire. Et là, ça a duré peut-être moins d'une heure. On a eu la même chose au 31 mars 1993. Là, il y avait toujours une rentrée atmosphérique normale, mais il semblerait que ce phénomène naturel était accompagné par des manifestations de notre intelligence en France et au Royaume-Uni. Là, on a des événements très courts, mais après, si on prend la vague belge, elle s'est étalée de 1989 en novembre et jusqu'en 1992-93.
Alors, il y a des vagues très spectaculaires aussi dont on ne parle plus, qu'on a oubliées. C'est notamment la vague de 1954 dont Joël Ménard nous a tant parlé sur cette antenne. Alors là, on est vraiment dans ce qu'appelait Aimé Michel un festival d'absurdité, au sens où les manifestations étaient extrêmement étranges durant l'automne 1954 en France et en Italie, hein.
Oui, la base de données sur cette vague de 1954 qui comprend le plus de cas, c'est celle de Patrick Gross, Les ovnis vus de près, où il a recensé 2200 affaires, à peu près. Et donc, c'est des affaires qui comprennent celles qui sont élucidées, mais aussi celles qui sont inexpliquées. Et effectivement, des rencontres de premier type dans l'atmosphère, et on a aussi des atterrissages. Il est estimé, d'après les recoupements que j'ai faits sur plusieurs bases de données, qu'on a 200 atterrissages et 100 présumées rencontres du troisième type pendant cette vague de 1954 en France.
Alors,
Et
rencontre du troisième type,
aussi.
pour les auditeurs qui ne connaissent pas, eh bien, c'est l'apparition comme ça de créatures humanoïdes, hein, tranchons le mot.
C'est ça. C'est une présumée créature qui peut être. À l'époque, qui peut être ressemblant à des humanoïdes, mais il y en a qui ressemblaient à des nains macrocéphales, avec des grosses têtes. Il y en avait qui semblaient porter des combinaisons ou des scaphandres. Et d'une manière plus large, dans les rencontres du troisième type, on peut avoir des profils extrêmement variés. On peut avoir des silhouettes lumineuses, on peut avoir des présumées créatures qui ressemblent à des reptiles, qui sont informes, d'autres qui sont inclassables. Et il y a beaucoup de questions sur ces rencontres du troisième type. D'abord, pour savoir si c'est la réalité, c'est un élément clé. Pendant cette vague de 54, on pourrait déjà remarquer que pour les atterrissages, c'était plutôt des petits objets qui étaient vus, par exemple, au sol. Ils mesuraient entre 3 et 5 mètres. Ils pouvaient être en forme de disque, ils pouvaient être en forme de cylindre, de dirigeable ou d'autres. Et lorsque le témoin approchait, soit on restait sur l'encontre du deuxième type et il voyait l'objet s'élever très fortement à la verticale. Et ça, déjà, c'est suspect, parce qu'à l'époque, on n'avait que les hélicoptères qui pouvaient faire ça. Et encore, quand un hélicoptère décolle, il lui faut un certain temps pour prendre de la vitesse, et d'autant plus que les hélicoptères sont assez facilement reconnaissables, même à longue distance. Aussi bien par leur forme très spécifique, les pales, le rotor, mais aussi les bruits qu'ils émettent. Des hypothèses sceptiques pensaient que ces atterrissages étaient des hélicoptères qui se posaient dans des champs. Mais comment se fait-il qu'à courte distance, les témoins, qui étaient parfois plusieurs, ne les aient pas reconnus? D'autre part, la plupart du temps, on n'a aucune preuve qui s'avère confirmer la présence d'hélicoptères. Par exemple, une base militaire à côté qui aurait dit oui, il y a eu un plan de vol et notre hélicoptère s'est bien posé là. Alors déjà, il y avait ça qui était étrange. Et ensuite, bien sûr, les créatures, et surtout l'éclectisme de ces créatures. Et on a aussi certaines aberrations comportementales et des bizarreries dans ces rencontres du troisième type. Ce que j'appelle le coup de la panne, par exemple. C'est-à-dire qu'un témoin s'approche d'un vaisseau qui est posé au sol et il voit des créatures qui sont en train de le réparer, par exemple, et qui rapidement remontent dans leur engin et s'en vont. C'est un scénario qui peut avoir un côté saugrenu, est-ce que des extraterrestres vraiment tomberaient en panne et au dernier moment arriveraient à réparer leur engin. Des fois, Ces êtres ne semblent pas marcher, mais glisser sur le sol. Ils ont des comportements comme des récoltes d'animaux, de minéraux, de végétaux, qui peut sembler aussi bizarre pour pour des visiteurs extraterrestres. C'est pour ça que certains auteurs qui sont spécialisés dans les R3, comme par exemple Eric Zucker ou d'autres, prennent du recul et envisagent que c'est plutôt un scénario théâtralisé, juste destiné aux témoins pour passer un message peut-être obscur, abscon, mais il faut pas les prendre peut-être au premier degré. C'est ce que je voulais dire, c'est peut-être pas forcément des créatures qui viennent récolter des plantes ou autres sur Terre ou réparer leur vaisseau, mais ça peut être aussi, on peut imaginer par une civilisation avancée, du contrôle mental. Ça pourrait être des créatures bioniques, ça pourrait être aussi des illusions, des hologrammes de toutes sortes.
Suite de cet entretien avec Franck Morin, qui est l'animateur du CIPO, le mois prochain dans l'émission Les Témoins de l'Invisible. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Grand-Ciel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.
Tu te souviens même pas ce que ça voulait. dire.